France Culture, 6h, 7h, les petits matins. Tout de suite, les titres de l'actualité.
Bonjour Anne Lorchin.
Bonjour à tous. Et l'actualité ce matin, ce sont les deux gardes à vue prolongées pour la compagne et l'un des amis de Radouane Lakhdim, petit délinquant radicalisé qui a tué 4 personnes vendredi à Trèbes dans l'Aude, au nom du groupe État islamique. La jeune femme de 18 ans montrerait des signes de radicalisation selon les enquêteurs qui cherchent à savoir si le terroriste a bénéficié d'aide ou de complicité. Hier, des hommages aux victimes ont eu lieu partout en France et particulièrement à Carcassonne où vivait le terroriste de 24 ans et où travaillait l'officier de gendarmerie tué lors de la prise d'otage Arnaud Beltrame. Un hommage national devrait lui être rendu dans les jours qui viennent. Il avait pris la place d'une otage dans le supermarché où a eu lieu l'attaque. La Catalogne, théâtre d'affrontements ce week-end après l'arrestation de Carles Puigdemont, l'ex-président indépendantiste de Catalogne, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen. 5 mois après avoir fui l'Espagne, ce sont les autorités allemandes qui l'ont arrêté alors qu'il tentait de rejoindre la Belgique. Des milliers de militants indépendantistes ont donc affronté la police espagnole. Les Égyptiens doivent voter depuis ce matin jusqu'à mercredi pour une élection présidentielle sans surprise. Abdel Fattah al-Sissi brigue un second mandat et face à lui, c'est l'un de ses amis qui se présente, Mostafa Moussa, considéré par beaucoup comme un homme de paille. Les candidats de l'opposition égyptienne se sont retirés en janvier après des intimidations. 5000 rebelles syriens et leurs familles ont embarqué dans plusieurs bus pour être évacués de la Ghouta orientale. Hier, l'un des principaux groupes rebelles a trouvé un accord avec les Russes pour quitter la région et rejoindre des zones sous contrôle rebelle dans le nord-ouest de la Syrie. Et puis c'est un sommet tendu auquel s'apprête à assister Union européenne et Turquie aujourd'hui. Un dîner de travail entre Jean-Claude Juncker et Recep Tayyip Erdogan doit avoir lieu ce soir à Varna en Bulgarie avec de nombreux points de désaccord au menu, l'état de droit en Turquie, le pacte sur les migrants ou encore l'offensive turque contre les milices kurdes en Syrie, sans compter la Grèce et Chypre.
France Culture et Sorbonne Université vous invitent au forum Les Révolutions de l'Intelligence. Histoire de l'intelligence, avancée des neurosciences, débat sur l'intelligence artificielle, une journée d'échange pour traiter ces enjeux à travers l'histoire, la philosophie, les sciences et l'économie. Avec notamment Anne Chung, Benjamin Bayard, Laurence de Villers, Paul Jorion, Cédric Villani. Rendez-vous samedi 31 mars dès 10h dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. En partenariat avec La Croix, Alternatives économiques et l'Histoire. Inscription maisondelaradio.fr.
6h02 sur France Culture, excellent réveil culturel à tous avec Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec le Réveil culturel. Nous sommes le lundi 26 mars, c'est tous les jours de 6h à 6h30 à la radio, ce magazine de l'actualité culturelle, ou quand vous voulez, en passant par le podcast ou l'écoute en ligne, disponible sur franceculture.fr. Le Réveil culturel, une émission réalisée par Vincent Bouchard avec, ce matin, à la technique, Marie Le Peintre. Émission coordonnée par Anaïs Isbert et Bilal Bouchareb. Dien Bien Phu, joli nom pour un naufrage. Dien Bien Phu, 3 syllabes de sang, un son de claque et de défaite pour nous les hommes. Retour à Dien Bien Phu, à la recherche d'un amour jeune et vieux fou. Fou de 20 ans, retour ici en pèlerinage. Dien Bien Phu, c'est le titre du roman, premier roman de mon invité ce matin, Marc-Alexandre Ohobambe, et c'est édité chez Sabine Vespisseur.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Marc-Alexandre Ohobambe.
Bonjour.
Premier roman, mais c'est sans doute pas votre premier livre. Vous êtes poète, slameur, vous avez fait paraître déjà des recueils de poésie. Là, on est entre le roman et le recueil de poèmes, parce que les poèmes sont très très présents dans cette histoire. Une drôle d'histoire d'ailleurs, parce que là on est à peu près sûr que c'est pas votre histoire. Marc-Alexandre Ohobambe, Dien Bien Phu, c'est l'histoire d'un jeune de 20 ans qui a fait la guerre en Indochine et qui revient 20 ans après pour retrouver celle qu'il a follement aimée. pendant la guerre. C'est un roman sur l'amour en temps de guerre, mais aussi sur l'amitié en temps de guerre.
Absolument, absolument. C'est une histoire d'amour et d'amitié sur fond de guerre et ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire un texte au long cours sur ces thèmes qui me sont chers.
Mais pourquoi avoir choisi le Vietnam ?
Alors pour plusieurs raisons, par amour déjà, j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années pour et par la poésie. Et un soir où on était off, comme on dit, entre deux concerts, une amie vietnamienne m'a emmené rencontrer des Bodoy. Donc qui sont des soldats, qui étaient des soldats paysans, donc pas des soldats de métier, des jeunes qui s'engageaient pour combattre l'impérialisme. Et donc ils se retrouvent encore de temps en temps pour échanger, pour parler de la guerre, pour parler de leur adolescence empêchée à cause du conflit dans lequel ils ont versé corps et âme. Et quand ils se retrouvent, ils l'évoquent parfois en chanson, en poésie, et ça m'a bouleversé. Ça m'a rappelé aussi la manière dont mon grand-père parlait de la guerre de décolonisation au Cameroun. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient exactement les mêmes. Ces gens que je voyais au Vietnam, ces messieurs qui parlaient de la guerre, de leur résistance, parfois par des poèmes, parfois par des témoignages, me faisait penser à mon grand-père et à des histoires que j'avais entendues aussi à Douala quand j'étais enfant.
À Douala, où vous êtes né en 1976, voilà. Marc-Alexandre Orumbambe. Dien Bien Phu, c'est le titre donc de ce livre, et vous prenez vous glissez dans la peau d'Alexandre, donc ce jeune soldat qui revient, qui laisse tout tomber, c'est-à-dire 20 ans après la guerre, il va laisser tomber sa femme, sa famille pour retourner là où il a aimé éperdument une fille rencontrée pendant la guerre.
Oui, là où il est né même. Il considère que ça a été le lieu de sa renaissance au monde. Grâce à Mylan, cet amour au visage lune, et grâce à Alassane Diop, qui devient son meilleur ami, qui lui sauve la vie pendant le conflit. Et il considère qu'effectivement ce lieu, qui était un lieu de guerre, un lieu de destruction, a été aussi le lieu de sa renaissance au monde. Donc il part pour renaître et revenir à lui-même.
Drôle de pèlerinage.
Mais nécessaire. Parce que je pense qu'il y a des moments où on ne peut pas continuer à se fuir. Et là, ce n'est pas seulement le narrateur, mais je pense qu'on est tous parfois confrontés à des choix. Et parfois, on accepte de se fuir un petit peu parce que d'autres choses sont prioritaires. Et puis, il y a des moments où c'est plus fort que nous et que c'est absolument nécessaire.
Parlez-nous de cet Alexandre.
Alors Alexandre, c'est un jeune homme qu'on va suivre. J'ai eu envie donc de donner vie à ce personnage qui porte un regard sur le monde qui ressemble un peu au regard que je porte sur le monde. Et c'était intéressant de voir comment, à un moment donné, il m'a échappé complètement. Il a vécu sa vie, Alexandre, dans le livre. Les mots s'écrivaient, je ne les écrivais plus. Et ça a été une expérience très forte d'auteur. Je n'avais jamais vécu ça. Parce que quand j'écris de la poésie, c'est inconscient, c'est fulgurant. Et je ne reviens pas sur ce que j'écris.
Surtout, sauf erreur de ma part, vous n'avez pas connu la guerre.
Non, pas directement, non.
Alors que là, c'est un personnage qui est marqué par la guerre.
Oui, il est marqué par la guerre, il est habité par elle, il est hanté par elle. Et heureusement qu'à côté de la guerre, il y a aussi l'amour et l'amitié qui le hantent.
Pas à côté, c'est intimement lié, la guerre et l'amour en même temps, il découvre.
Voilà, exactement. Le chaos et la lumière en même temps.
Alors, Marc-Alexandre Orumbambe, dans cet Alexandre que vous mettez en scène dans Dien Bien Phu, il ne rompt en réalité jamais avec ses 20 ans, avec cet amour, avec cette guerre, puisqu'il continue à écrire des lettres à cette maille qu'il a rencontrée et qui lui a fait, vous venez d'utiliser l'expression, et qui a été l'occasion d'une renaissance pour lui.
Oui, en fait, il a écrit pendant 20 ans des poèmes à une absente, mais c'est aussi le pouvoir de la littérature et le pouvoir de la poésie qui permet de retenir près de nous les êtres aimés, qui permet de les chanter, qui permet de leur donner vie encore et toujours par le simple fait de les évoquer et de les nommer. Et donc lui, pendant 20 ans, à son retour en France, il écrit à Mylan. Il ne cesse jamais la conversation avec Mylan. Et d'ailleurs, les poèmes dont vous parliez tout à l'heure rythment le récit, parce que je l'ai composé un peu comme une partition musicale, ce texte-là. Je l'ai plus composé d'ailleurs qu'écrit, je pense.
Quand vous dites « j'ai plus composé qu'écrit », c'est parce qu'en tant que poète slammeur, et vous faites beaucoup de scènes, Marc-Alexandre Orumbambe, à l'origine de ce texte, c'était peut-être un spectacle ?
Non, pas à l'origine, mais j'écris toujours du bout des lèvres. Je dis d'ailleurs souvent en plaisantant aux élèves que j'ai en cours que je suis mosicien. Pour moi, c'est important, la musique est là tout le temps, dès le premier mot, dès la première phrase.
Mosicien. Les mots et la musique.
Voilà. Et d'ailleurs, Dien Bien Phu, le titre lui-même, ces trois syllabes qui me fascinent depuis l'âge de 16 ans, juste pour la musique, avant que même que j'aille au Vietnam... Dien Bien Phu, cette musique-là me parlait intimement, sans que je sache que j'écrirai un jour dessus. Mais voilà, je suis très sensible à la musique des mots, qui est aussi pour moi de la poésie d'ailleurs, la musique, une musique de mots. Et Alexandre donc écrit sans arrêt, sans cesse à Mylan, parce que c'est aussi le seul moyen de ne pas rompre avec elle.
Mylan, et si on parlait d'elle maintenant, Marc-Alexandre Bambay?
Mylan, c'est... C'est l'amour absolu, c'est la femme ultime, c'est la femme originelle et à la fois la femme ultime. C'est le premier amour et le dernier amour d'Alexandre. C'est une femme qui l'a bouleversé, comme certaines femmes savent le faire parfois. Et elle l'a bouleversé, mais bouleversé totalement. C'est de tout son être, il est épris de Mylan. Et elle va l'accompagner comme ça pendant 20 ans dans sa quête de lui-même.
Dien Bien Phu, donc c'est la guerre et en même temps c'est le temps de l'amour et le temps des copains parce que, et même de l'amitié, parce qu'il y a aussi le personnage d'Alassane Diop, l'ami qui m'a sauvé la vie, on peut le dire. Il pourrait l'expliquer comme ça, Alexandre?
Absolument, Alassane est central dans la vie d'Alexandre, déjà parce qu'il la lui sauve et, ouais. Et puis après parce qu'il lui apporte comme ailleurs, comme lumière, comme conscience du monde. Alassane est essentiel dans la vie d'Alexandre. D'ailleurs, et c'était l'inverse était vrai aussi, puisque le fils d'Alassane s'appelle Alassane Alexandre, en hommage à un ami de rencontré pendant la guerre. Et Alassane Diop, qui est aussi le cousin d'Alioune Diop, figure centrale, fondateur des éditions Présence Africaine, qui m'ont apporté, moi, la négritude de Césaire, de Damas, de Senghor. Voilà, donc c'était l'occasion aussi de rendre hommage à cette maison d'édition-là, et puis à ce qu'elle a porté, à ce qu'elle porte encore comme valeur et comme fondation de ce que Glissant appelait peut-être la relation.
Il y a quelque chose au filigrane, au fil de ce récit, parce que ça reste un récit intime, amoureux, des fois très grave, poignant, ce qui ne vous empêche pas, Marc-Alexandre Mbambe, de parler du combat anticolonialiste. Qu'est-ce que aujourd'hui combattre contre le colonialisme?
C'est participer à ce que j'appelle la décolonisation des esprits, mais de tous les esprits, c'est-à-dire des deux côtés. Il y a pas très longtemps, j'étais à Nantes, je jouais dans un musée et le thème c'était ça, décoloniser les esprits, un musée qui témoigne de la colonisation, des luttes de décolonisation. Et ce qui était important pour moi, et ce qui est important pour moi d'ailleurs, surtout avec les jeunes gens que j'ai les élèves, les étudiants que j'ai l'occasion et le bonheur de rencontrer depuis une dizaine d'années maintenant, c'est ça, c'est décolonisons nos esprits tous autant que nous sommes. Le combat, il est là aussi. Cesser de se regarder en être supérieur, inférieur, cesser d'accepter d'avoir sur nous un regard qui nous infériorise, et puis juste être dans le respect de nous-mêmes, debout.
Marc-Alexandre Mbambe, vous venez de le préciser, vous êtes aussi enseignant.
Oui, je suis enseignant d'une certaine manière. Oui, ma mère l'était et moi je la continue en intervenant dans des établissements scolaires en France et dans le monde pour parler de poésie, pour parler de littérature, pour parler aussi de ce que j'aime à dire, assumer son métier d'homme.
Với cọng buồn cỏ khô ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa rừng thu la úa em vẫn chưa về rừng đông quân gió em đứng thấy em trong tiền kiếp.
Marc-Alexandre Ohobambé sur France Culture, il fait le réveil culturel à l'occasion de la sortie de son roman « Dien Bien Phu » chez Sabine Vespisseur. Extrait du roman, Marc-Alexandre Ohobambé.
Le passé, un retour de flamme parfois. Napalm, gaz, tir de mortier, armes lourdes, âmes, éplorées, cris et douleurs insoutenables, blessés graves ou légers, vie traumatisée, terre immaculée, cadavre, destin. Empêché, espoir assassiné. La mort a mille visages qui interrogent la conscience de l'homme. Maï m'avait rejoint en Normandie et nous nous en étions allés, hôtel de la paix dans notre chambre paradis, antichambre de la folie amoureuse qui nous liait l'un à l'autre. Elle était mienne, j'étais sien, ici. On ne le sait pas, mais on cherche Maï toute sa vie. On la trouve, mais on ne peut pas être avec elle, on ne peut plus être avec elle car on doit partir, partir vite, loin d'elle qu'on aime et de son pays qui nous hait pour ce qu'on est aussi, un soldat ennemi. On ne le sait pas mais on cherche Maï toute sa vie, on la trouve mais on ne peut pas être avec elle, on ne peut plus car la guerre est finie, la paix revient et l'amour s'en va, mourir ailleurs. On ne peut pas non plus être sans elle, Maï, qu'on a cherché sans le savoir. Toute sa vie.
Vingt ans après la fin de la guerre, 20 ans après Dien Bien Phu, Alexandre revient au Vietnam sur la trace de la fille qu'il a follement aimée. C'est l'histoire de Dien Bien Phu, c'est aussi une autre histoire, parallèlement à cette histoire d'amour, une histoire de solidarité et d'amitié. Marc-Alexandre Ohobambé, si on parlait un peu de vous, alors de votre parcours, cet amour de la poésie, des mots, ça vient de l'éducation de votre mère qui était elle-même enseignante, ou c'est quelques histoires de la vie qui vous permettent aujourd'hui de manier les mots et d'être ce matin à la radio pour parler de votre dernier roman?
Oui, ça vient de très loin. D'une maman, d'une merveilleuse femme de lettres qui m'a transmis l'amour des mots, qui était enseignante de français, de lettres et de philo, et qui animait aussi un cercle de poésie à la maison. Donc, enfant, moi, je voyais à la maison débarquer des amis de ma mère qui étaient enseignants et donc qui avaient des métiers divers et qui venaient lire de la poésie, chanter de la poésie, des textes classiques, Hugo, Éluard, et des textes d'auteurs haïtiens, René Depestre, Césaire. Voilà, la maison était pleine de ces voix et habitée par des gens qui n'étaient pas des comédiens, qui étaient juste des amoureux de poésie. Et c'est quand je suis arrivé en France que j'ai découvert qu'on lisait la poésie de manière très neutre, qu'on pouvait la lire aussi de manière très neutre, très, très timide comme ça, parce que moi je l'avais toujours entendu scander, ce qui fait que je ne peux pas dissocier mon geste d'écrire du geste de dire. Pour moi, un texte, si finitude il y a, c'est un texte est écrit pour être partagé de manière vibrante. Et j'écris de la poésie comme ça. J'ai commencé par le rap quand j'étais au Cameroun. J'écrivais des textes de rap. Et puis après, le rap est devenu un peu étroit, en tout cas pour la personnalité que j'avais à 16-17 ans. Et puis j'ai eu envie d'écrire différemment et de manière plus libre.
autour de thèmes qui vous concernent, ou c'est juste le plaisir de jouer avec les mots et d'aller là vers des ailleurs insoupçonnables?
Alors, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu le plaisir. Ça a commencé d'abord par le plaisir de manier les mots, de jouer avec les mots. Et très vite, ça a cessé d'être un jeu parce que j'ai perdu ma mère tôt. Et à partir de ce moment-là, l'écriture est devenue autre chose qu'un jeu. C'était le seul moyen pour moi de la garder vivante. Et donc c'est devenu une nécessité d'écrire. Là, je jouais plus, j'avais besoin d'écrire pour respirer et pour survivre à cette absence fondatrice. Et après, il y a eu aussi le fait que j'ai réalisé qu'en écrivant, je pouvais donner mon avis aussi sur le monde dans lequel je vivais et faire plus que ça, c'est-à-dire peut-être même participer à la marche de ce monde-là. Et donc voilà, il y a eu plusieurs étapes, mais bien sûr, ça a commencé par le plaisir et de manier les mots et d'allumer une lueur dans les yeux de ma mère qui souriait qui était mon premier public avec mon père et qui souriait à chaque fois que je rentrais du collège avec un nouveau texte à partager aux parents.
Écrire contre l'oubli, écrire contre la mort, c'est aussi le sujet de Diane Bienfou.
Oui, il s'agit d'écrire pour rester vivant. Il s'agit d'écrire pour rester vivant, pour dire aussi qu'à travers moi, tellement d'autres personnes sont vivantes aussi. Il s'agit d'écrire pour rester vibrant et dissiper les ténèbres autour. Oui, c'est écrire contre la mort, c'est écrire jusqu'à l'amour même.
Vous êtes arrivé en France à l'âge de 17 ans, Marc-Alexandre Orobambe. Vous avez étudié à Lille, vous êtes intéressé au journalisme, mais très vite, c'est l'écriture et la scène qui l'ont emporté. Vous êtes auteur de 3 recueils de poèmes et votre collectif s'appelle « On l'a slamé sur la lune ». C'est un hommage à Tintin ou c'est un hommage distancié à Hergé ?
Non. Ça fait sourire, mais c'est un hommage à Prévert, mais pas seulement, parce que Prévert a écrit l'Opéra de la Lune. Mais c'est surtout un hommage à quelqu'un qui est fondamental pour nous. Donc quand je dis nous, je parle des membres du
collectif.
Du collectif. Et on a eu envie, à un moment donné, quand on cherchait un nom, d'être dans cette distance-là. Pour parler du monde, il faut un peu de distance parfois. Et on se disait que c'était pas mal de regarder le monde, de regarder la Terre de là-haut, et un peu de hauteur, un peu de distance. Et la Lune était un lieu pas mal pour ça.
Pour parler du monde tel qu'il est, ou pour parler de littérature et pour imposer la poésie dans un monde rongé par tant de mots, de problèmes?
Alors, pour parler du monde tel qu'il est, pour parler du monde et le réinventer aussi, inventer de nouveaux chemins, et non pour imposer la poésie, mais pour la proposer. Parce qu'il y a toujours cette ambition-là de démocratiser la poésie et puis de la réinjecter dans le quotidien des gens, comme ça, par petites touches. Nous, le collectif s'est fait connaître en commettant des attentats poétiques. On rentrait dans des restos, dans des musées, on déclamait des poèmes et on partait en courant, sans laisser de traces autres que la poésie.
Mais poèmes connus, des poèmes classiques, du répertoire, ou vos propres poèmes?
C'était vraiment un mélange de tout. Il y avait des textes, des auteurs qui nous bouleversent. Là, j'ai cité Césaire, mais je pourrais citer René Char aussi.
Bien marqué, d'ailleurs.
Oui, je suis marqué à vie par René Char et Césaire. Mais c'était parfois, oui, des textes d'auteurs qui nous bouleversaient. Et puis, parfois, les premiers textes auxquels on s'essayait de manière collective aussi. Mais l'idée était vraiment d'entrer dans un espace et puis d'offrir de la poésie et de partir sans laisser aucune trace à part cette poésie-là. Et c'est amusant parce que 10 ans après, il y a des gens qui nous ont revus ou retrouvés sur scène, alors il y a eu un peu de chemin depuis, et qui se souviennent de mots comme ça, entendus dans un resto. Voilà, tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. S'il en est ainsi, fais cortège à tes sources. Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Et on partait. Et il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça il n'y a pas très très longtemps, fêté les 10 ans d'On a slamé sur la Lune. Et quand il a entendu, il m'a dit, mais je connais votre voix, est-ce que vous auriez pu dire cette phrase?
Il
avait retenu la phrase parce qu'elle avait, ça l'avait marqué. Il avait noté, hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Et grâce à Internet, il avait retrouvé René Char. Et il s'était dit, mais ces gamins-là sont entrés dans le resto et ont offert un poème de René Char. Mais il avait que ça comme trace, puisqu'on n'avait pas dit comment on s'appelait, on n'avait rien dit du tout. Et je trouve ça absolument formidable de retrouver, grâce à la poésie, quelqu'un avec qui on a eu un échange, bref, il y a une dizaine d'années.
Et pour terminer, Marc-Alexandre Ohombambé, quel dialogue avez-vous, vous, par exemple, avec Aimé Césaire et René Char?
Alors je leur écris et puis je les récite. Je continue à les garder en vie poétique, à les transmettre. Je suis passeur, avec les jeunes, j'aime et faire ça plus que tout même, passer, être
mais
passeur.
Mais pourquoi très précisément Césaire et Char?
Parce que c'est mes plus grandes claques poétiques. Parce que Césaire et Char m'ont enseigné que la poésie, avant d'être des mots, une esthétique, était la respiration de la femme et de l'homme debout. Et que je leur dois ça. Si j'ai basculé totalement en poésie avec le sentiment que je ne devais essayer d'être le maître de mon destin et le capitaine de mon âme, c'est grâce à ces poètes que je considère comme des professeurs d'espérance. Et parmi ces professeurs d'espérance, il y a tout en haut Césaire et Char. Char d'ailleurs auquel je rends hommage par mon pseudonyme Capitaine Alexandre, qui était le nom de guerre de René Char pendant la Résistance.
Mais vous vous souvenez du mot, du poème, de la phrase, de la tournure, de l'idée qui a fait qu'à un certain moment c'était eux et pas d'autres qui allaient devenir vos guides?
Oui, je m'en souviens absolument. Et
pour Césaire, par exemple.
Pour Césaire, en fait, il y avait une bibliothèque à Cajou chez moi, la bibliothèque de ma mère. Et parfois, je prenais des livres et j'ai pris un livre au hasard. Et je le dis souvent, d'ailleurs, on ne choisit pas les livres, c'est eux qui nous choisissent parce qu'ils ont des choses à nous dire. Donc, j'ai 15 ans. J'ouvre le cahier d'un retour au pays natal, mais complètement au hasard. Déjà, je ne comprends pas tout. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je ne comprends pas tout dedans. Mais je réalise aussi qu'il n'y a rien à comprendre. Juste se laisser traverser par le souffle et une vibration. Et j'ouvre ce texte et je tombe sur la justice écoute aux portes de la beauté.
Et ça vous parle tout de suite?
Ça me parle. Je ne sais pas pourquoi ça me parle, mais ça me bouleverse. Et quelques pas plus loin... Mais c'est juste incroyable ce qui se passe. C'est une phrase de lumière. Elle nous traverse de la tête aux pieds et on ne sait pas pourquoi. Et des années-lumière plus tard, justement, on comprend pourquoi elle nous a autant bouleversés. La justice écoute aux portes de la beauté. Il y avait ça chez Césaire et chez Char. Pareil, il faut imaginer que j'ai 17 ans, que je rêve de devenir écrivain et j'ai pas de plan B dans la vie. Je sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, c'est comme ça, c'est ce que je veux faire. Et il y a cette phrase, va vers ton risque, serre ton bonheur, impose ta chance, à te regarder, ils s'habitueront. Et j'ai des larmes qui coulent et je ne comprends pas pourquoi non plus. Mais je sais que ça me parle et j'ai l'impression qu'il a écrit ça pour moi à ce moment-là. Va vers ton risque, serre ton bonheur, impose ta chance, à te regarder, ils s'habitueront. Et depuis cet âge-là, la poésie, la littérature sont... ma chance, mon bonheur et mon risque.
Et la langue française a été là dès votre naissance, ou il y a eu une période où elle représentait quelque chose de mystérieux? Vous êtes né avec le français,
oui,
Marc-Alexandre Ohombambé?
Oui, je suis né avec le français. Alors je dis souvent en souriant que le français est aussi ma langue maternelle, puisque ma mère l'enseignait. Mais je suis né avec le français. Au Cameroun, on parle français et anglais. C'est les deux langues officielles liées à l'histoire du Cameroun et de la France. Et donc, je suis né avec le français.
Dien Bien Phu, c'est le titre de votre premier roman, édité chez Sabine Vespissaire. Merci d'être passé, Marc-Alexandre Ohombambé.
Merci à vous pour votre invitation et votre accueil. Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt. Bye.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. Tout de suite après, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Appel à candidature. Devenez juré du prix France Culture Cinéma des étudiants. Vous êtes étudiant et fan de cinéma? Testez votre sens critique et soutenez un film indépendant. Pour candidater, rien de plus simple. Envoyez-nous, sous forme écrite, audio ou vidéo, une critique du film de votre choix avant le 1er avril minuit à com.franceculture@radiofrance.com. Si vous êtes sélectionné, vous visionnerez 5 films soutenus par France Culture et élirez le réalisateur de votre choix. Remise du prix au Festival de Cannes. Plus d'infos, franceculture.fr.
France Culture, il est 6h30. Le journal par Anne-Laure Chouan. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Nous irons en Égypte dans ce journal alors que les Égyptiens se préparent à voter pour l'élection présidentielle, une élection sans grand suspense. Le président Sissi n'ayant en face de lui qu'un opposant fantoche, la jeunesse égyptienne désabusée n'est pas dupe. Reportage à venir de François Hume Ferkataji. En Catalogne, les partisans de l'indépendance ont affronté les forces de l'ordre hier après l'arrestation en Allemagne de leur leader, le chef catalan en exil, Carles Puigdemont. La tête du mouvement apparaît sérieusement affaiblie, c'est ce que nous dira Mathieu de Taillac. Et puis, nous reviendrons sur l'attentat de Trèbes dans l'Aude qui a coûté la vie à 4 personnes vendredi et notamment sur cette polémique Stéphane Poussier, ce militant de la France insoumise en garde à vue pour apologie du terrorisme. Une parodie d'élection présidentielle, c'est ainsi que la plupart des analystes jugent le scrutin qui se tient en Égypte à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mercredi. Et pour cause, Sissi, candidat à sa réélection, n'a qu'un seul opposant, l'un de ses partisans, Moussa Mostafa Moussa, candidat de dernière minute. Les opposants, victimes de mesures d'intimidation, ont tous déclaré forfait en janvier dernier. En l'absence de véritable compétition, aucun débat public n'a vraiment émergé pendant la campagne. Et pourtant, les questions sont nombreuses et les problèmes aussi. Parmi ces problèmes, ceux d'une jeunesse désillusionnée qui souhaite quitter le pays. Le reportage au Caire de notre correspondant François Hume Ferkataji.
Dans un immeuble du quartier de Mounira, nous montons sur le toit pour contempler un Caire, comme toujours, enrobé d'un voile brunâtre de pollution. Pour parler de la situation en Égypte, tous les jeunes hommes présents ont demandé que leur nom soit modifié. En raison des privations de liberté et de la chape de plomb que fait peser le régime sur les jeunes, Magid n'a plus d'espoir dans la politique.
Ce n'est pas notre pays. C'est le pays des vieilles personnes et de l'armée. Nous n'avons aucune voix là-dedans. C'est une grande désillusion. C'est triste parce qu'on peut dire que la situation était bien meilleure sous Moubarak. C'est triste à dire, mais c'est comme ça.
Allumant une cigarette avec la précédente, Ibrahim, architecte, est usé par ces discussions qui sont les mêmes depuis plus de 6 ans. Les jeunes sont déprimés et veulent quitter le pays.
Yes, of course, I tried to do my master's abroad, but it didn't work. Actually, it was not my target to leave. Like,
bien sûr, j'ai essayé de faire mon master à l'étranger. Ce n'était pas mon but. En fait, je pense que même si j'y étais arrivé, ce ne serait pas pour la vie. Je veux partir jusqu'à ce qu'on puisse se sentir plus en sécurité en Égypte, jusqu'à ce qu'on puisse faire des choses.
Until things can be safer or there will be a space or a chance that we can do things.
De toute façon, Ibrahim n'a pas le droit de quitter le territoire. Il a refusé de faire son service militaire et a été condamné à 7 mois de prison pour cela. Il n'y a peut-être aucune trace du 25 janvier 2011 dans les rues du Caire. Mais depuis cette date, dit l'un d'entre eux, nous avons conscience de tout et notre tour viendra.
François Hume Ferkataji et puis l'éducation en Égypte. Ce sera tout à l'heure le thème du choix de la rédaction dans le journal de 7h30 de Catherine Dutu. Son arrestation a provoqué une vague de protestations en Catalogne. L'indépendantiste en fuite, Carles Puigdemont, a été arrêté hier par la police allemande alors qu'il rentrait vers la Belgique depuis le Danemark en tentant d'échapper au contrôle. Carles Puigdemont est sous le coup d'un mandat d'arrêt européen. Par ailleurs, 5 dirigeants catalans sécessionnistes ont également été arrêtés vendredi, ce qui ressemble fort à une décapitation du mouvement indépendantiste catalan et ce qui pose la question de l'avenir politique du mouvement. Les explications depuis Madrid de Mathieu de Taillac.
Depuis les dernières élections catalanes, les indépendantistes s'inscrivent dans deux courants. D'un côté, les jusqu'au-boutistes, ceux qui veulent maintenir la confrontation avec les autorités espagnoles, coûte que coûte, pour stigmatiser le caractère qu'ils jugent autoritaire du gouvernement et de la justice espagnole. Ce sont ceux, notamment, qui voulaient remettre Carles Puigdemont sur son trône, même à distance, même si la Cour constitutionnelle s'y oppose. D'autre part, ce qu'on appelle les pragmatiques, ils considèrent qu'ils ont assez payé pour la cause, qu'il y a assez de dirigeants en prison, que la majorité indépendantiste, si elle existe, est trop faible, qu'il vaut mieux choisir un candidat prêt au pacte pour gouverner la région et mettre fin à la tutelle de Madrid, quitte à ce que l'indépendance attende encore quelques années. Ces deux attitudes sont les deux voies que peut emprunter le sécessionnisme aujourd'hui. Le chemin de l'intransigeance peut s'appuyer sur les manifestations dans les rues. Ses représentants n'ont pas peur non plus de nouvelles élections anticipées. Les pragmatiques, au contraire, veulent marquer une pause. Ils parlent d'élargir la base en se tournant vers des mouvements de gauche, comme Podemos, pas indépendantistes, mais prêts à défendre le droit à l'autodétermination et à critiquer l'attitude de Madrid avec eux. On saura dans les prochaines semaines si l'arrestation du jusqu'au-boutiste en chef, Carles Puigdemont, ébranle le moral de ses troupes ou leur donne au contraire un coup de fouet supplémentaire.
La garde à vue des deux personnes arrêtées après l'attentat terroriste de Trèbes dans l'Aude se poursuit ce matin. Dans le cadre d'affaires terroristes, elle peut se prolonger jusqu'à 96 heures, voire 144 heures dans des cas exceptionnels. Les enquêteurs interrogent la petite amie de Radouane Lakhdim, délinquant radicalisé, qui a tué 4 personnes donc vendredi au nom du groupe État islamique. La jeune femme de 18 ans montrerait des signes de radicalisation, selon les enquêteurs, qui cherchent à savoir si le terroriste a bénéficié ou non de complicité dans la préparation de son attentat. Hier, une cérémonie religieuse a été célébrée dans l'église de Trèbes pour rendre hommage aux victimes. Par ailleurs, un hommage national devrait célébrer dans les jours qui viennent le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui a pris la place d'une otage lors de l'attaque. Sa mort avait fait réagir un ancien candidat de la France insoumise, Stéphane Poussier, dont un tweet a provoqué une indignation générale et son exclusion du parti de Jean-Luc Mélenchon. Stéphane Poussier, qui a lui aussi été placé en garde à vue pour apologie d'actes terroristes. Jean-Baptiste Mélenchon.
La polémique est partie d'un premier message publié sur Facebook et Twitter juste après les attentats de Trèbes. Stéphane Poussier écrit qu'à chaque fois qu'un gendarme, je cite, se fait buter, il pense à Rémi Fraisse, un jeune militant écologiste mort il y a 5 ans, avant d'ajouter « Là, c'est un colonel, quel pied ?» en référence à la mort d'Arnaud Beltrame. Loin d'en rester là, l'ex-candidat France Insoumise dans le Calvados persiste au travers d'une série de messages « Je ne suis pas gendarme », écrit-il en lettres capitales et en référence au slogan « Je suis Charlie ». Très vite, les réseaux sociaux s'enflamment, ces messages sont commentés de très nombreuses fois. Militants et responsables politiques de la France insoumise se désolidarisent, dénoncent des propos abjects et honteux. Déjà en interne, son investiture dans la 4e circonscription du Calvados avait fait débat, sa personnalité suscitait quelques interrogations. Stéphane Poussier va donc devoir s'expliquer. Dans un dernier écrit, il dénonçait une campagne de harcèlement. Ce sera son dernier message avant son interpellation.
À Mayotte, le deuxième tour de l'élection législatif partiel a bien eu lieu malgré les menaces de blocage par les manifestants. Les électeurs de la première circonscription ont arbitré plus nettement le match entre les deux candidats qui s'étaient déjà affrontés en juin 2017. Ramati Ali, 54,9% des voix, candidate de La République En Marche, a donc dominé le scrutin avec un mandat un peu plus précis de la part de ses électeurs, pesé de tout son poids pour faire entendre la voix de Mayotte à Paris. L'analyse de Toufaïli Angilani de Mayotte Première.
En votant pour Ramlati Ali à plus de 54%, les électeurs de la première circonscription ont confirmé et même accentué les résultats de juin 2017 où Ramlati Ali n'avait été élu que par 54 voix d'avance. Cette fois-ci, la différence est de 1502 voix en faveur de la candidate soutenue par La République En Marche. Une victoire nette dans un contexte de tension sociale et les appels au boycott du scrutin n'ont visiblement pas été entendus par les électeurs. Eu égard donc aux circonstances, la participation est relativement conforme au dernier scrutin qui se sont déroulés à Mayotte. Ce dimanche, 41% des électeurs se sont déplacés aux urnes contre 45% en juin 2017. Ramlati Ali remporte 5 communes sur 7 et pas les moindres. Elle est arrivée en tête dans la capitale, Mamoudzou, Adzaoudzi, l'abattoir, Apamandzi, Kungu et Badabwa. Elle ne laisse à son adversaire Elad Chakrina que les communes d'Akwa et Mzamboro. Cette fois-ci donc, les résultats ne souffrent d'aucune ambiguïté. Mayotte a désormais sa deuxième députée avec une feuille de route que la rue a imposée à tous les élus de Mayotte. Elle va devoir sans doute faire sienne les revendications des Mahorais qui manifestent contre l'insécurité et pour le développement de l'île depuis exactement 37 jours.
À Paris, un homme de 29 ans est en garde à vue pour suspicion de crime antisémite. Il a été arrêté après le décès d'une femme de 85 ans dans son appartement vendredi dernier. Il avait plusieurs fois menacé de mort cette femme de confession juive. Et les enquêteurs tentent désormais de savoir si ce crime a des motivations antisémites. Les précisions de Jean-Philippe Degnaud.
C'est en intervenant pour un feu d'appartement que les pompiers ont découvert le corps de Mireille. Très vite, l'enquête a conclu au caractère criminel de cet incendie, avec d'une part les traces de 5 départs de feu, mais surtout le corps de la victime était lacéré d'une dizaine de coups de couteau. Depuis quelque temps, l'octogénaire avait porté plainte à plusieurs reprises après avoir reçu des menaces de mort d'un voisin dans ce groupe d'immeubles du quartier de la Nation. Interpellé samedi, le suspect, déjà connu de la police mais pour des infractions d'une autre nature, est interrogé par les enquêteurs de la police judiciaire. Outre la question de son éventuelle responsabilité dans le meurtre de Mireille, se pose celle du caractère antisémite de ce crime. « Ça ne fait aucun doute », souligne le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, pour qui le meurtre de Mireille ressemble en tout point à celui de Sarah Halimi, qui avait été défenestrée par un voisin il y a tout juste un an. C'était à l'autre bout du 11e arrondissement.
Jean-Philippe Degnaud, le temps de ce lundi gris et humide, partout sauf en Méditerranée. Pluie ce matin du sud-ouest à la Champagne, en passant par le centre du pays. Temps plus variable des pays de la Loire aux Hauts-de-France. Dans l'après-midi, le ciel se chargera à nouveau par le nord-ouest. Les températures comptaient ce matin de 4 à 8 degrés, un peu plus frais sur le nord-est, 1 à 3 degrés. Cet après-midi, il fera de 9 à 13 degrés jusqu'à 18 degrés près de la Méditerranée. 6h40 sur France Culture. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Anne-Laure.
Alors dans votre journal des idées ce matin, vous reviendrez d'une certaine manière sur cet attentat de Trèbes.
Oui, qui montre évidemment qu'on est loin d'en avoir fini avec le pouvoir de nuisance et de terreur de l'organisation État islamique. Alors je vous propose quelques réflexions sur l'islam, problèmes et solutions à la fois. Merci Anne-Laure Chouin. On vous retrouve à 8h pour un nouveau journal.
À tout à l'heure.
Le journal des idées, Jacques Meunier.
L'État islamique n'a pas disparu en Irak et en Syrie, comme le montrent ses attaques récentes dans plusieurs provinces, celles de Kirkouk ou d'Idlib. Il existe par ailleurs un vivier de radicalisés partout à travers le monde qui n'ont pas renoncé à l'idéal djihadiste de cette supposée défense de l'islam contre les mécréants. Rappelle Myriam Benrahad dans Libération.fr. La politologue spécialiste du djihadisme ajoute qu'après les défaites militaires du califat, on observe deux tendances, découragement et désillusion d'une part, en particulier chez les revenants. Ceux-là sont souvent désenchantés face à l'Eldorado auquel ils avaient cru, constatant qu'il s'agissait d'une promesse vide, d'autant qu'ils ont été témoins d'actes atroces commis par un groupe foncièrement criminel. Il y a une autre tendance illustrée par l'attaque de Trèbes, celle d'un revanchisme djihadiste particulièrement répandu parmi les résidents radicalisés. Pour Alexandre Delval, ce sentiment est notamment entretenu par une stratégie de l'intimidation, celle d'un islamisme conquérant, dont le terrorisme n'est que la branche armée, tandis que la crainte qu'il inspire est perpétuée par un discours islamiquement correct. Dans le Figaro Vox, le spécialiste de géopolitique et de relations internationales refuse d'isoler le phénomène terroriste d'un ensemble de représentations et de justifications idéologiques à l'œuvre dans nos propres sociétés. Il estime que la violence physique des djihadistes produit une sidération et une intimidation qui profite en fait aux tenants de l'islamisme plus institutionnel. Ceux-ci prétendent que le djihadisme n'a rien à voir avec l'islam alors qu'il s'abreuve aux mêmes sources totalitaires. Et il rappelle que l'université Al-Azhar, la plus prestigieuse du monde sunnite, n'a jamais excommunié les djihadistes alors qu'elle a déclaré apostat nombre de libéraux. Avant d'ajouter qu'en France, l'islam modéré, celui de la mosquée de Paris ou de l'imam Chalgoumi, existe, mais il est en perte de vitesse et minoritaire au niveau des lieux de culte et de la production de discours et d'identité. Jugeant que nos sociétés ont beaucoup trop cédé durant des décennies, notamment en laissant les frères musulmans et à présent le pôle turc contrôler le Conseil français du culte musulman, il suggère par exemple de n'accorder la gestion du marché du halal qu'à des pôles modérés de l'islam, car les milliards générés permettent à des mouvances comme les frères de s'autofinancer. Alexandre Delval pointe également un problème de fond, la haine envers la civilisation occidentale qui crée un terreau favorable au processus de radicalisation organisation djihadiste, mais lui qui ne manque pas une occasion de mettre en garde contre, je cite, les conséquences funestes de la nouvelle guerre froide entre l'Occident et la Russie dans cette guerre d'influence, semble oublier que la haine anti-occidentale et antidémocratique est également distillée par le Kremlin. Et qu'est-ce que les Russes ont fait contre l'État islamique en Syrie, si ce n'est consolider le régime criminel d'Assad, dont il est avéré qu'il a favorisé l'émergence d'un troisième front djihadiste en libérant les pires éléments islamistes de ses prisons, à seule fin de se rendre indispensable contre cette menace. Reste que, comme l'a montré le psychologue américain William Schutz, plus une entité véhicule une image positive d'elle-même, plus elle suscite l'adhésion. Dans notre démocratie essoufflée, le sacrifice héroïque et altruiste du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame à Trèbes pourrait bien changer la donne de la martyrologie. Et si la culture de l'excuse, le fruit le plus mûr du complexe occidental, tend à ramener l'analyse du djihadisme aux conditions sociales de son essor, nombreux sont ceux qui s'élèvent contre cette interprétation victimisante. Dans le livre paru chez Youpi Publisher sous le titre « Islam, quel problème ? Les défis de la réforme », Razika Adnani rappelle d'abord, à propos de la radicalisation islamiste, que la majorité des personnes touchées par ce phénomène vivent dans les pays musulmans, où l'individu vit dans son milieu culturel et historique et n'est pas confronté au problème de l'intégration. Pour la philosophe et islamologue, il convient en outre de ne pas restreindre à la France ou à l'Europe l'analyse d'un phénomène né d'abord dans les pays musulmans. Selon elle, aujourd'hui, le radicalisme et le salafisme qui montent en Europe sont davantage une cause de la problématique de l'intégration qu'une conséquence. La stratégie de ces courants étant de culpabiliser les croyants, présentant l'intégration comme une trahison et une forme d'impiété, même si le fondamentalisme islamiste qui crée le problème de l'intégration l'utilise en même temps pour se renforcer. Et face aux dénégations qu'on peut entendre à chaque nouvelle explosion de violence, cela n'est pas l'islam, elle insiste sur la nécessité d'une prise de conscience collective et d'une responsabilisation des musulmans face aux dérives du fondamentalisme, par la connaissance et la critique, notamment des failles et contradiction du courant littéraliste auquel elle consacre un chapitre de son livre, ainsi que par une évolution du rapport à l'autre dans nos sociétés et du regard porté sur lui. Vous écoutez France Culture, il est 6h46. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier.
Alors, vous revenez donc sur la mobilisation contre les armes ce samedi aux États-Unis avec une question. La jeunesse sera-t-elle une force déterminante dans l'élection présidentielle de 2020 ?
Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
En tout cas, c'est ce qu'elle a réclamé, puisqu'il y avait plus d'1,5 million de personnes dans des centaines de villes aux États-Unis samedi dernier. La plus grande manifestation contre la multiplication des armes à feu aux États-Unis et leurs conséquences. C'est un ultimatum, effectivement, de la jeunesse au parti politique américain. Bonjour, James Cohen. Merci d'être au téléphone avec nous, professeur de civilisation américaine au département du monde anglophone de l'université Paris 3. Alors, changer la législation sur les armes ou changer le Congrès, hein, c'était un des nombreux slogans qu'on a pu lire dans ces manifestations qui ont une intensité et une portée politique inédite, même si le débat est assez récurrent aux États-Unis. Il y a plusieurs traits, ce sont des jeunes, des lycéens de 18 ans cette année, avec quelques figures et orateurs remarquables, on va en reparler, et qui font partie donc de cette Generation Mass Shooting, la génération massacre de masse comme il s'appelle, trop jeune donc pour voter en 2016, désormais en âge. La menace électorale sur les élus favorables à la NRA, la National Rifle Association, est assez claire pour les midterms et pour 2020. Le potentiel de votants non négligeable non plus, puisque James Cohen, je crois que ce serait à peu près 21 300 000 électeurs, c'était les 15-19 ans en 2016. Alors on va voir ce qu'il en est des mesures. En tout cas, il y a déjà des appels du pied des démocrates. Les républicains sont visés. Le débat sera, et le combat, pas forcément facile. En tout cas, cette volonté de peser, elle est claire. Et la première remarque, c'est que on a eu une mobilisation très rapide et avec un succès quand même assez étonnant. Cette jeunesse qui donne une image très responsable, c'est ça qui surprend au début.
Oui, bah écoute.
Écoutez, ils sont très efficaces. Ils ont un peu étonné tout le monde. La mobilisation a été, dans un premier temps, très très spontanée. Les jeunes du lycée visé en Floride le 14 février étaient particulièrement efficaces parce qu'ils viennent d'un lycée où on apprend encore dans le secteur public des compétences intellectuelles, le débat, la pensée critique, des choses comme ça. Donc ils étaient mieux préparés que d'autres. Alors la question que vous venez de poser à propos de leur efficacité électorale, écoutez, tout le monde en parle aujourd'hui, il faut pas, à mon avis, se faire trop d'illusions. Ils vont entrer cette année, beaucoup d'entre eux en tout cas vont pouvoir voter pour la première fois. Ils vont en même temps exercer pas mal d'influence. Ils ont leur propre réseau médiatique, leur propre compte Twitter, etc. Ils sont sur les médias plutôt efficaces. La question de savoir si dans quelle mesure ils vont être complètement canalisés dans le système bipartisan que nous avons aux États-Unis, ils vont être interpellés par le Parti démocrate. On peut se demander, entre autres, quel Parti démocrate, parce que c'est un parti galvanisé sans doute par toutes les horreurs de Trump et par les élections récentes, dans les élections, les élections partielles, très révélatrices parce que les démocrates les gagnent, mais en même temps, le Parti démocrate est très divisé. Il y a des divisions internes.
Alors, on va reparler du potentiel électoral. Juste avant, pour votre avis sur un élément de contexte quand même, c'est sûr qu'on a une série de tueries particulièrement meurtrières et rapprochées là sur ces deux dernières années entre donc Parkland, l'hôtel Mandalay à Las Vegas, le Pulse à Orlando, dans laquelle beaucoup de fois la question des fameux bump stocks là, qui servent à rendre les armes automatiques, même si elles ne sont pas, ont été posées. Mais il y a aussi cette multiplication des marches, là, les Black Lives Matter, les Women's March au début de l'année, March for Science. Est-ce que ce mouvement s'inscrit dans cette marche, dans ces mouvements de rue, voilà.
Écoutez, ce qu'on a vu à Washington, à New York, à Boston et dans toute une série d'autres villes samedi, c'était des foules très bariolées et des formes c'est la diversité américaine qui s'est manifestée, noir, blanc, hispanique, etc. Tout le monde y était et il y a des convergences parce qu'il y a des formes de violence qui affectent les lycéens, il y a des formes de violence qui affectent des jeunes dans des rues de quartiers où des armes sont partout, et il y a des convergences possibles. Ça ne veut pas dire que ces convergences vont être immédiates et qu'il va y avoir une sorte de fusion harmonieuse automatique entre les jeunes de Parkland, Black Lives Matter et toute une série d'autres mouvements sociaux. Tout ça prend du temps, mais ce qu'on a vu samedi, à mon avis, c'est un début de convergence intéressante.
Ouais. Et justement, dernière chose sur la forme, c'est pas ça qui est nouveau quand même. Là, je parlais de la fusillade du Pulse, c'était en Floride aussi. Ce qu'a dit un des jeunes, là, leader du mouvement, c'est ça s'est passé dans les banlieues des banlieues et maintenant on va porter le combat à la capitale. C'est un peu la première fois qu'on voit ces banlieues américaines venir effectivement s'exprimer politiquement là.
Oui. Ce sont des banlieues pavillonnaires. Enfin, en tout cas, on parle de Parkland en Floride. C'est des gamins plutôt privilégiés, même si c'est pas une école privée dont on parle. Mais ils vont, comment dire, ils ont vraiment parfaitement compris quelles sont leurs cibles, et leurs objectifs. Ils ont parfaitement compris pourquoi il y a toute une série d'hommes politiques, surtout des républicains et quelques démocrates aussi, qui ne prennent pas leurs responsabilités parce qu'ils sont, ils n'ont que le souci du profit. Ça, ils ont parfaitement compris. Et ils sont combatifs, ils sont déterminés et ils n'acceptent pas ce qu'ils appellent eux-mêmes le BS. Un de leurs slogans consiste à dire « We call BS », on voit et on dénonce les conneries. Enfin, ils ne supportent pas, comment dire, ils sont devenus des lecteurs très critiques de la presse et on va entendre parler d'eux.
Oui, slogan lancé par Emma Gonzalez, là, une des leaders du mouvement.
Il a été repris un peu partout, même à Paris, samedi dernier.
Et effectivement. Alors, avant qu'on parle encore une fois du potentiel politique, sur le potentiel de régulation, quand même, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on voit que la Maison-Blanche a fait un mouvement peut-être timide vendredi dernier, avec deux choses. Là, il y a une législation sur les bump stocks, je le disais, et puis également des mesures qui ont été inscrites dans le budget, notamment sur le contrôle des maladies mentales, etc. Ça vous semble le maximum que puisse faire Donald Trump, là ?
Écoutez, un des élèves a répondu à ces initiatives. Nous ne sommes pas là pour des miettes. ça me paraît être des miettes et c'est trop peu et trop tard et ce que ces jeunes visent et ce que disons que ce que le programme dicte, c'est un changement qui passe par le Congrès, qui passe par la législation fédérale, qui passe par un changement d'abord de majorité à la Chambre des représentants et peut-être aussi au Sénat en novembre 2018. Ça nous le verrons, mais voilà, ils en veulent beaucoup plus.
Et de ce point de vue-là, alors ça peut être quoi l'impact de la campagne de shame et de dénonciation, disons, des élus du Congrès? Il y avait une liste énorme publiée, relayée par le New York Times, de membres d'élus du Congrès. Le premier, c'était le sénateur John McCain, qui recevait, je crois, plus de 7 millions de dollars, c'est ça?
C'est ça. Ils sont presque tous républicains. Il y a aussi des démocrates dans le lot, mais beaucoup plus bas placés dans la hiérarchie de ceux qui reçoivent l'argent de la NRA. Et ils sont visés. Et on sait, disons, dans l'état actuel des choses, il y a je ne suis pas prophète, mais il y a 40-50 États qui pourraient, 40-50 sièges de la Chambre des représentants qui pourraient bouger cette fois-ci, parce que on sait toujours que après 2 ans de présidence, le parti du président en exercice prend des coups. C'était le cas d'Obama il y a 8 ans, Je pense que de toute façon, les républicains étaient déjà en train de souffrir avant tout cela, avant cette mobilisation exemplaire. Mais les républicains sentaient déjà souffler le vent contre eux et maintenant encore un peu plus.
Et alors là précisément, hein, ces républicains effectivement qui sont 95 des 100 premiers bénéficiaires, encore une fois information du New York Times, qui relaient eux-mêmes une campagne publique d'information. Ils sont en difficulté puisqu'ils viennent de perdre 2 élections, une en Alabama, une en Pennsylvanie. À votre avis, est-ce qu'il y a vraiment une opportunité, disons, pour les démocrates, au moins pour ces midterms?
Encore une fois, je ne suis pas très prophète, mais je pense qu'il y a plus de chances dans la Chambre des représentants qu'au Sénat, parce que même si récemment on a fait bouger un siège du Sénat en Alabama de manière plutôt inattendue, mais le candidat des républicains était tellement horrible, tellement réactionnaire et violeur en plus que même les républicains n'ont pas pu le soutenir. Mais disons que c'était plutôt exceptionnel et pour le Sénat, les démocrates vont être plutôt exposés en 2018 parce qu'il y a 24 sièges ou 26 sièges démocrates qui sont en jeu et seulement 7 ou 8 sièges républicains qui sont en jeu. Donc là, c'est difficile, mais pour la Chambre, il y a un changement de majorité possible et je dirais même au jour d'aujourd'hui, je dirais que c'est presque probable.
Ouais. Et toute dernière chose en quelques secondes, mais du côté des régulations, il y avait déjà eu une régulation anti-armes automatiques en 1994 jusqu'en 2004 qui a expiré, plusieurs tentatives d'en réintroduire. Est-ce qu'il y a une régulation toute prête qui pourrait être réutilisée au cas où le Congrès changerait de main à la fin de l'année?
Franchement, je ne suis pas assez spécialiste, mais je pense qu'il y a beaucoup depuis le temps, beaucoup de spécialistes de cette question. Il y a des réformes et même des projets de loi déjà rédigés et qui sont prêts à mobiliser si la majorité le permet.
Oui, entendu. Eh bien, écoutez, de toute façon, à suivre les inscriptions sur les listes électorales, hein, je crois que c'était 25 000 personnes qui étaient en tout cas prévues, 25 000 jeunes prévus pour être inscrits dans les prochains jours. On va suivre ça et en tout cas, je vous remercie pour aujourd'hui. Merci James Cohen, professeur de civilisation à l'Université Paris 3. Et à 6h57 sur France Culture, nous retrouvons Guillaume Herner. Bonjour.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à tous.
L'humeur du matin, Guillaume Herner.
Et vous aussi, Guillaume, vous allez poser une question morale essentielle.
Peut-être la question morale essentielle. Qu'est-ce qui conduit un homme comme Arnaud Beltrame à se livrer à la place d'un otage au prix de sa vie? Qu'est-ce qui fait qu'un terroriste, lui, ne tremble pas dans l'accomplissement de son crime? Pour le terroriste, une expression galvaudée évoque la banalité du mal et pourtant... Le mal n'a rien de banal, comme le disait l'aumônier d'Aiglières. Le mal est un problème pour les uns, un mystère pour les autres. Par là, il voulait dire qu'il n'est pas évident de comprendre pourquoi un individu choisit de faire le mal parmi la multitude d'autres actions qui s'offrent à lui. Un terroriste, n'importe quel assassin, choisit parmi les différents possibles qui s'offrent à lui et de se comporter de la sorte. Pour faire le bien, la démarche est tout autre. Il y a, semble-t-il, une voie unique du bien, comme si le mal était immanent, le bien transcendant. C'est ce qui ressort de la multitude de témoignages d'individus qui ont fait le bien, comme si ce bien s'imposait à eux. Qu'est-ce qui conduit un individu à être injuste, à cacher des enfants, à prendre la place d'un otage, à accompagner les enfants jusqu'au camp d'extermination lorsqu'on est leur instituteur? Ces milliers de personnes qui l'ont fait, n'ont pas voulu diminuer la part d'humanité en eux. Comme le disait Malraux, nous en avons fait bien peu, mais nous en avons fait assez pour être les vieilles des camps d'extermination. Eh bien, la leçon de ces héros ou de ces saints, c'est que le mal est multiple, le bien unique. Ceux qui ont eu à faire le bien n'ont pas pu agir autrement. Quelque chose les a empêchés de choisir toute autre forme d'action, comme si une grande force les contraignait à faire le bien, à être des justes, au risque de leur vie, acceptant l'idée du sacrifice, comme en témoigne le face-à-face d'Arnaud Beltrame et du terroriste. Si le mal est multiple alors que le bien est unique, c'est que l'on choisit de commettre le mal alors que c'est le bien qui vous choisit.
Et oui, il y a des choses qu'on peut faire qu'à condition qu'on se dise qu'on n'a pas le choix, l'impératif catégorique.